Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition internationale. Il est 18h, temps universel, 19h à Paris, 20h à Beyrouth et Jérusalem.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Accompagné d'Adrien Delgrange pour vous présenter ce grand journal, l'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Les armes pourraient se taire dans les prochaines heures. Les négociations se précisent, nous dit dans un instant Paul Khalife à Beyrouth. Nous sommes aussi au Soudan dans cette édition. Le pays est ravagé par la guerre depuis un an et demi. Les hommes de deux généraux se livrent une bataille sans pitié. Rare reportage tourné à Khartoum, signé Elliot Brachet. Après les élections contestées en Géorgie, la première session du Parlement s'est réunie aujourd'hui. Des manifestants venus, disent-ils, enterrer la démocratie géorgienne. Dans ce journal aussi, le Premier ministre roumain reconnaît avoir perdu l'élection présidentielle d'hier soir. La lutte contre le plastique au cœur d'une réunion internationale en Corée du Sud, nous y serons. Et puis dans l'actualité française, au procès des viols de Mazan, 20 ans de prison. La peine maximale a été requise contre Dominique Pellicot. Tanita Fallet nous attend en Avignon. Vers un cessez-le-feu imminent au Liban, un accord d'arrêt des combats est proche, assurent ce soir les États-Unis. Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron pourraient l'annoncer d'ici 36 heures. Les informations sur l'imminence de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Liban et Israël se multiplient depuis maintenant quelques heures. Alors que les affrontements meurtriers sont quotidiens, les dégâts très nombreux. Pour cette guerre qui a commencé il y a maintenant près de 2 mois, Paul Khalife en direct de Beyrouth. Paul, dites-nous comment réagissent les milieux officiels libanais aux informations sur l'espoir d'un accord qui pourrait mettre fin à cette guerre actuelle.
Eh bien, Adrien, les deux principaux concernés, le Premier ministre Najib Miati et le président du Parlement Nabih Berri, de même que leurs proches, se murent dans un silence complet. Les milieux de Nabih Berri, qui a négocié avec les Américains au nom du Hezbollah, ne veulent pas entrer dans ce qu'ils appellent des supputations sur des dates. Silence tout aussi total sur le contenu de la proposition. Des sources diverses affirment que l'accord reposera sur la résolution 1701 des Nations Unies qui a mis fin à la guerre de 2006. Seul le mécanisme de surveillance a été renforcé pour s'assurer qu'elle sera bien mise en œuvre. Le comité de supervision existait déjà et comprenait le Liban, Israël et les Nations Unies. Il a été élargi pour englober les États-Unis, qui le dirigera, et la France. Israël a tenté d'opposer son veto à l'entrée de la France, mais le Liban a insisté et Washington a vu cette proposition d'un bon œil, car la France est le seul pays européen à parler encore au Hezbollah. Ce comité supervisera le retrait de l'armée israélienne du Liban et des combattants du Hezbollah du sud du fleuve Litani dans un délai de 60 jours. Cette mission sera confiée sur le terrain à l'armée libanaise et au casque bleu de l'ONU.
Paul Khalife en direct de Beyrouth, alors que deux nouvelles frappes ont encore visé aujourd'hui le Liban. Un haut responsable de l'ONU fait pression également. Il appelle les parties du conflit à accepter un cessez-le-feu. Et puis la France confirme à l'instant que les discussions sur un arrêt des combats au Liban ont avancé significativement ces dernières heures. L'actualité nous emmène à présent au Soudan. Ce pays se déchire depuis précisément le 15 avril 2023. C'est une guerre fratricide. En 19 mois, le conflit a déraciné plus de 13 millions de Soudanais et plongé le pays dans la plus grave crise humanitaire au monde. Rien ne semble pouvoir arrêter la confrontation entre les forces armées soudanaises, dirigées par le général Al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide, menées par le général Emeti. Bombardements, massacres, conflits ethniques, maladies et la faim qui menacent désormais plus de la moitié des 45 millions de Soudanais. RFI a obtenu un accès tout à fait exceptionnel dans les zones contrôlées par l'armée régulière. C'est un reportage d'Eliott Brachet.
Tout est allé très vite. À 8h35, des explosions ont retenti à l'ouest de l'hôpital Al-Naou. Un tir de mortier est tombé sur un terrain vague où des enfants jouaient au foot. En quelques minutes, les urgences se remplissent. Hamid, un jeune garçon de 13 ans, est allongé sur un brancard, la jambe déchiquetée. À ses côtés se tient Ayman, l'un de ses coéquipiers, blessé lui aussi par un éclat d'obus.
On était en train de jouer au foot. Moi, j'étais gardien de but. J'ai shooté dans le ballon et au même moment, une bombe est tombée. J'ai été blessé au bras. J'ai commencé à courir. Il y avait un homme qui était mort avec les jambes coupées. Hamid, il était tombé par terre aussi. Sa jambe saignait et on voyait l'os qui sortait. Il essayait de lever la tête, mais elle retombait sur le sol. C'est tous les jours comme ça. Il y a des affrontements et des obus qui tombent.
Dans un bain de sang, les médecins, armés de bandelettes, s'efforcent de maintenir la jambe du petit Hamid en un seul morceau. Pour ces urgentistes, ces scènes sont quotidiennes.
Nous nous sommes habitués. Les bombardements à l'aveugle et les exactions commises par la milice des forces de soutien rapide s'enchaînent. Chaque jour, à l'hôpital Al-Nao, nous recevons de graves blessures, des cas critiques. Des enfants, des femmes, des vieillards. Ce matin, la situation est plutôt calme. Normalement, en 2 ou 3 jours, le sol de cette salle est jonché de blessés.
Ici s'entassent les mutilés d'hier et les blessés d'aujourd'hui. Souvent, ils doivent partager le même lit, faute de place. 18 mois de guerre ont mis le système hospitalier à genoux. À l'extérieur du bâtiment, c'est un balai de chaises roulantes et de familles qui échangent des regards inquiets. La mère du jeune Hamid craint qu'on doive amputer son fils. Il n'y a pas de chirurgien aujourd'hui pour l'opérer.
Nous habitons dans un centre d'accueil pour déplacés. Avant, on vivait à Mansoura. Mais les paramilitaires nous ont forcés à fuir. Ils nous pillaient, ils frappaient les gens, ils tuaient. Ils nous ont fait subir toutes les atrocités. Alors quand on a fui, on s'est retrouvés ici dans les quartiers de l'armée. On dort par terre dans une école, nous n'avons plus rien. Et maintenant, on est la cible des bombardements. Tous les jours, il y a des obus qui tombent. Nos enfants ont été blessés alors qu'ils jouaient au foot. La situation est mauvaise. On n'est pas en sécurité. On est fatigué de tout.
Soudan, les civils dans l'étau des généraux rivaux. Reportage à écouter ce soir plus en longueur, 19h40, temps universel. Ce drame au large de l'Égypte, aujourd'hui en mer Rouge, le naufrage d'un bateau de tourisme. Les autorités égyptiennes ont annoncé que 28 personnes avaient été sauvées et que les opérations de recherche étaient en cours pour tenter de retrouver 17 autres passagers. Les députés géorgiens étaient conviés ce midi à la nouvelle session parlementaire de leur pays, mais les 61 députés élus de l'opposition ne se sont pas déplacés. Ils estiment les élections parlementaires du 26 octobre dernier totalement falsifiées. Quant au parti au pouvoir, le rêve géorgien, il dément toujours les accusations de fraude. À Tbilissi, capitale de la Géorgie, reportage Régis Janté.
C'est dans une ambiance de funérailles de la démocratie qu'a été installée cette 11e législature de la Géorgie indépendante. À midi, à l'heure où les 89 députés nouvellement élus du rêve géorgien étaient réunis dans l'enceinte du Parlement, leurs opposants, peu nombreux sous une pluie froide, faisaient du tapage et parodiaient dans une ambiance funèbre les messages de la police anti-émeute.
Policiers, dispersez-vous dans l'ordre. Ne laissez pas ici les restes de la loi russe, les juges corrompus, la propagande. Sachez que le pouvoir est dans les mains du peuple.
Au micro, les voix des leaders politiques et de la société civile s'étranglent de colère et d'émotion. Dans la foule, le désespoir se lit sur les visages. Comme dans un baroud d'honneur, les sifflets et les huées saturent le ciel de Tbilissi au moment où, sur un écran géant installé sur les marches du Parlement, on entend le doyen de la future Assemblée égrener les noms des députés élus de la majorité. En fin d'après-midi, la manifestation se dispersera dans le calme et dans l'attente angoissée des répressions promises contre les partis et organisations pro-occidentales, promises par l'homme fort du pays, l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Ce n'est qu'un premier tour, mais cela donne tout de même la tendance. Ce résultat inattendu en Roumanie, un candidat pro-russe que personne n'attendait, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il s'appelle Călin Georgescu. Il se prépare à un duel le 8 décembre prochain face à une novice en politique. La possible victoire de Călin Georgescu, opposé à l'aide à l'Ukraine et pourfendeur de l'OTAN, inquiète les organisations de la société civile comme Elena Calistrou, présidente de l'association Funky Citizens.
Il y a une forte, une très forte déception à l'égard de la classe politique dominante. Et c'est une tendance que nous observons partout dans le monde. Je pense que vous le ressentez aussi en France. Je pense que nous l'avons vu de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que nous voyons cela en Roumanie. Mais il y a une différence par rapport aux démocraties plus anciennes. Ce qui se passe en Roumanie, c'est que nous ne disposons pas nécessairement d'institutions très matures, capables de compenser d'une manière ou d'une autre le manque de leadership dans certains domaines. Et les gens ont le sentiment d'être laissés pour compte, que personne ne se soucie d'eux et que les principaux partis politiques ne faisaient que des jeux politiques et négociaient entre eux en oubliant la population. C'est donc dans une large mesure un vote contre les élites.
Propos recueillis par Julien Chavannes. Ailleurs sur la planète, le prochain président uruguayen félicité par Joe Biden, Yamandu Orsi, le candidat de l'opposition de gauche, déclaré vainqueur de la présidentielle d'hier en Uruguay. Je suis convaincu que nos deux pays continueront à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur, dit Joe Biden. Yamandu Orsi prendra ses fonctions le 1er mars prochain. La Corée du Sud accueille une conférence des Nations Unies sur la gestion des plastiques. Comment réduire leur pollution qui met en danger à la fois les océans mais aussi notre santé? Si rien n'est fait, les rejets de déchets plastiques passeront de 360 à plus de 600 millions de tonnes par an. Objectif donc, trouver un accord d'ici la fin de la semaine. Un traité qui ne sera pas si simple à élaborer, d'autant plus dans un pays hôte qui a lui-même énormément recours au plastique. Kim Nara de Greenpeace Corée du Sud.
En Corée du Sud, on estime que 46% des déchets plastiques proviennent des plastiques à usage unique. Nous avons calculé leur consommation et il a été révélé que chaque Coréen consomme en moyenne 560 contenants plastiques à usage unique par an. Ce sont principalement des emballages dans les magasins ou en livraison et des gobelets à emporter en sortant du café, par exemple. Actuellement, le gouvernement coréen adopte une politique assez passive en matière de réduction des plastiques. En Corée, les déchets plastiques augmentent chaque année. En 2021, par exemple, il y a eu un total de 12 000 tonnes de déchets plastiques jetés, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2017. En France, les chiffres tournent autour des 5 millions. La majorité des déchets plastiques en Corée sont incinérés, ce qui produit des gaz à effet de serre et contribue à l'accélération de la crise climatique.
Il est 19h12 à Paris, l'actualité en France. Premier jour des réquisitions au procès Pellicot. Dominique Pellicot y est jugé pour avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des inconnus. Des faits qui ont duré 10 ans. En tout, 51 hommes sont accusés dans ce dossier. Tanita Fallet, vous suivez les audiences en Avignon. Tanita, les avocats généraux ont requis des peines particulièrement sévères aujourd'hui.
Oui, ce sera 20 ans pour celui que l'avocate générale appelle la clé de voûte du dossier, Dominique Pellicot. Une peine maximale que Laure Chabot qualifie de plafond de verre, car les peines des 50 co-accusés en dépendent. Selon cette logique, donc, 17 ans sont requis contre Jean-Pierre M, accusé pour avoir suivi le mode opératoire de Dominique Pellicot sur sa propre femme. L'accusation a ensuite requis au cas par cas les peines de 19 accusés. Tout au long de la journée, les deux avocats généraux se sont passés le micro pour donner leur réquisition version XXL. Les peines aussi, pour le moment, entre 10 et 13 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ou tentative de viol aggravé. Pour mettre le maire avocat dans des accusés, ces réquisitions ne sont pas cohérentes.
Les avocats de la défense, Tanita, qui regrettent notamment aussi l'absence d'individualisation des peines. Tanita Fallet, en direct d'Avignon pour RFI. À la page politique en France, rejeté à l'Assemblée nationale française, le projet de loi finance commence son examen au Sénat. Le gouvernement et les sénateurs comptent apporter des retouches à la version initiale, notamment pour amoindrir l'effort demandé aux collectivités en quête de 60 milliards d'euros d'économies pour redresser les finances public et ramener le déficit à 5% du PIB en 2025. Le Premier ministre compte sur la Chambre haute, dominée par sa famille politique, les Républicains. Mais à gauche comme à droite, les sénateurs espèrent que les amendements adoptés seront conservés dans la copie finale. Charlotte Urien-Tomaca.
Le texte est arrivé au Sénat dans sa version initiale, celle soumise par le gouvernement. Il faut donc repartir de zéro, mais ce n'est pas plus mal pour le sénateur LR Roger Karoutchi, qui estime que même si le Premier ministre est issu de sa famille politique, ce n'est pas pour autant qu'il y aura de la complaisance.
Chacun sa place. Il y a un gouvernement, il y a un Sénat. Le Sénat fait son job, mais en tout état de cause, si nous voulons un accord à l'arrivée, il faut que le gouvernement s'engage à ce que le 49-3 ne dénature pas le budget du Sénat.
C'est également dans cette optique que les sénateurs du reste du socle commun, et notamment ceux de l'Union centriste, incontournables dans cette chambre, voient les choses. Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat.
Il faut absolument qu'au Sénat, on trouve des compromis. Le gouvernement fait des propositions. Il faut le faire raisonnablement, en étendant l'équilibre et le dialogue. Et aller, dans le sens souhaitable, c'est-à-dire celui des efforts et des économies.
La gauche, minoritaire, espère quand même peser dans les débats. Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat.
Nous rencontrons le Premier ministre mercredi en fin d'après-midi et nous allons lui dire, voilà, monsieur le Premier ministre, si vous prenez tel et tel amendement qui nous semble juste pour le pays, peut-être que la censure ne sera pas automatique.
L'enjeu est de savoir si un compromis avec les députés pourrait être trouvé lors d'une CMP et si un accord avec la gauche pourrait éviter une possible motion de censure malgré la menace du RN.
Charlotte Urien, Tomaka et puis dans l'actualité française, le procès de François Fillon renvoyé à une date ultérieure. L'ancien Premier ministre devait être jugé à partir d'aujourd'hui dans l'affaire dite des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. Le procès est renvoyé au 29 avril 2025 en raison de l'absence d'un avocat qui est à l'hôpital. Parlons sport.
RFI Soir, Adrien Delgrange.
Le journal des sports avec Babacar Diarra. Bonsoir Babacar.
Bonsoir Adrien.
En football, la Ligue des Champions et sa saison régulière reviennent demain avec la 5e journée. Des affiches de prestige au menu dont le choc Bayern Munich, Paris Saint-Germain.
Deux cadors plutôt mal en point à mi-parcours. Les Allemands apparaissent à la 17e place avec 2 victoires et 2 défaites. Plus bas et à ce jour éliminé, le PSG est 25e avec 4 points seulement. Les leaders du Ligue 1 doivent absolument revenir de l'Allianz Arena avec un bon résultat. Pour cela, Paris pourra s'appuyer sur 2 retours à l'occasion de ce déplacement en Bavière. Ceux de l'attaquant portugais Gonçalo Ramos et du défenseur Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018 voit enfin le bout du tunnel. Lui qui n'a plus joué depuis février 2023 et une blessure au tendon d'Achille. 21 mois sans match, son coéquipier Vitinha a hâte que cette série prenne fin.
On est tous vraiment heureux pour lui. Ça fait longtemps, bien plus que Gonçalo, qu'il n'est pas là. Donc j'imagine la sensation qu'il a maintenant d'être avec le groupe, de voyager, de s'entraîner demain. Donc on est vraiment tous contents pour lui. Je lui envoie un message aussi de force pour lui. Le pire, il a déjà passé. Il faut qu'il prenne plaisir maintenant. Et comme j'ai dit déjà, on est vraiment tous, toute l'équipe, tout le staff, on est vraiment tous heureux pour lui.
Bayern Munich, Paris Saint-Germain, coup d'envoi demain à 20h temps universel.
Et à la même heure, Babacar, l'incroyable aventure de Brest, 4e et toujours invaincu à mi-parcours avec 10 points, se poursuit à Barcelone.
Le Barça, plus grand adversaire de la petite histoire européenne des Bretons, une histoire démarrée en septembre dernier. À l'heure actuelle, Brest devance d'un point les Catalans, mais demain les deux clubs se passeront chacun de leur maître à jouer, Lamine Yamal en fin de convaincre l'essence côté espagnol et Pierre Lesmelou touché au genou vendredi dans le camp brestois. Cette absence n'empêche pas le défenseur du Barça Inigo Martinez de rester prudent.
Bueno, creo que están haciendo una
Je trouve qu'ils font un excellent travail. Ce n'est pas par hasard s'ils n'ont pas perdu le moindre match. Si nous leur manquons un minimum de respect, nous le payerons cher, sans aucun doute. C'est une équipe bien construite, ils savent comment contre-attaquer, physiquement ils sont costauds. Ce sera un bon match qu'il faudra gagner pour faire oublier nos 2 sorties précédentes en Liga qui n'étaient pas très bonnes.
Le défenseur barcelonais Inigo Martinez avant la réception de Brest, coup d'envoi demain à 20h temps universel.
Enfin, grand rival du Barça, le Real Madrid aura un déplacement périlleux mercredi à Liverpool chez des Reds en tête à la fois en championnat anglais et en Ligue des Champions. Tout roule pour eux, croyait-on, jusqu'à la sortie remarquée hier de leur star égyptienne.
Oui, Mohamed Salah, à peine auréolé d'un doublé sur la pelouse de Southampton, est venu laisser planer le doute sur son avenir à Liverpool, un départ qui serait forcément difficile à remplacer. Et celui du Pharaon, qui est bientôt aussi célèbre que les Beatles là-bas. Et pour cause, hein, depuis 2017, l'Égyptien a marqué 224 buts pour Liverpool. Seulement à 32 ans, il voit le bout de son contrat arriver. Ce sera en juin 2025 et aucune offre de prolongation est arrivée devant lui à ce jour, ce qui a le don de l'agacer.
Eh bien, nous sommes bientôt en décembre et je n'ai encore reçu aucune offre de la part du club. Je suis donc probablement plus sur le départ que sur le fait de rester. Je suis déçu, mais on verra. Je suis à Liverpool depuis tellement d'années. Il n'y a aucun autre club comme celui-là. Mais je vous le répète, je n'ai encore reçu aucune proposition de leur part. J'aime les supporters même. Maintenant, ce n'est ni entre mes mains, ni entre celles des supporters. Je ne vais pas prendre ma retraite bientôt. Je suis concentré sur la saison et j'espère remporter la Première Ligue. Et j'espère aussi la Ligue des Champions. Je donne le meilleur de moi. Voilà, c'est décevant, mais nous allons voir.
Les matchs sous le maillot des Reds sont peut-être comptés pour Mo Salah et le prochain aura donc un aspect prestigieux face au Real Madrid, privé pour l'occasion de sa star brésilienne Vinicius, blessé hier aux ischio-jambiers.
Merci beaucoup, Babacar Diarra, pour toutes ces informations sportives. RFI à Paris, 19h20. En Allemagne, alors que le pays est secoué par une crise politique avec la perspective d'élections législatives anticipées, Angela Merkel refait parler d'elle. Alors il n'est pas question d'un retour au pouvoir de celle qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, mais Angela Merkel s'apprête à publier ses mémoires. Celles-ci doivent être présentées par l'ex-chancelière ce mardi à Berlin. À cette occasion, le journal français La Croix s'intéresse au phénomène Merkel. Près de 3 ans après son départ de la scène politique, l'ancienne dirigeante est en effet devenue une figure de la vie culturelle. Pour en parler, Alain Guillemolle de La Croix est avec Romain Ozoui.
Bonsoir Alain Guillemolle.
Bonsoir.
Alors on va évoquer les inspirations créées par la personnalité Angela Merkel, mais d'abord, est-ce que l'on sait ce qu'est devenue l'ancienne chancelière allemande depuis qu'elle a quitté la vie politique en décembre 2021 ?
Oui, bah écoutez, elle s'est faite assez discrète en fait depuis cette période-là, et donc elle s'est consacrée notamment à écrire ses mémoires qui paraissent donc demain, un livre d'à peu près 650 pages, ça paraît dans 30 pays en même temps. C'est un événement, c'est très attendu, puisque le texte, à part quelques rares extraits, n'a pas été rendu public. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'attention pour savoir de quoi il est question.
Quel bilan peut-on tirer des années Angela Merkel ? Elle a été pendant 16 ans chancelière de l'Allemagne.
Oui, 16 ans, une longue période qui a été traversée par une multitude de crises, hein, de la crise de l'euro à celle des migrants en 2015 et notamment aussi la guerre en Ukraine où elle a joué un rôle très important puisqu'elle a négocié les accords de Minsk. Et donc, évidemment, le bilan est controversé. À la fois, elle a amené une certaine conception de la politique, une conception de la politique qui faisait une grande attention à la personne humaine. Elle était quelqu'un qui favorisait la concertation, la conciliation, le consensus. Ça, c'est pour l'aspect plutôt positif. Et puis, son héritage est un peu controversé parce que on lui reproche notamment d'avoir arrêté en Allemagne les centrales nucléaires, ce qui a fragilisé l'économie allemande puisqu'ensuite elle s'est retrouvée sous perfusion de gaz russe et Angela Merkel a approuvé les projets qui ont consisté à construire des gazoducs qui ont mis l'Allemagne sous cette dépendance du gaz russe. Et ça lui est pas mal reproché.
Donc voilà pour le bilan d'Angela Merkel. Quelle image elle laisse dans la tête de ses compatriotes allemands, Angela Merkel, aujourd'hui ? Près de 3 ans, on l'a dit, après avoir quitté la vie politique.
Oui, alors après avoir quitté le pouvoir, c'est vrai qu'elle elle reste un personnage familier des Allemands, un personnage plutôt apprécié et qui est présent à bien d'autres titres que la politique, puisque elle est devenue un personnage un peu, souvent incarné à la télévision dans des sketchs. Et puis il y a un écrivain qui a également choisi de prendre Angela Merkel comme personnage principal d'une série de romans policiers. Alors ça, c'est plus inattendu. Il fait d'Angela Merkel une enquêtrice qui, une fois à la retraite, une fois ayant quitté la chancellerie, mène des enquêtes policières dans la région où elle demeure, à côté de Berlin. Et alors, évidemment, comme c'est quelqu'un qui a très peu parlé de sa vie privée, en dehors de ses convictions politiques, il est possible d'imaginer absolument ce qu'on veut. C'est ce que nous explique cet écrivain demain dans la croix, en nous racontant comment et pourquoi il a choisi comme ça d'en faire un personnage clé de ses romans.
Oui, c'est Miss Merkel, hein, ces romans policiers à succès, où Angela Merkel est une retraitée de 70 ans, effectivement, qui joue les détectives. Pourquoi il l'imagine en détective, cet auteur-là?
C'est ce qui nous explique, c'est que il a trouvé que c'était un personnage qui pouvait incarner quelque chose à la fois qui parle aux Allemands et puis qui en même temps est à la fois très familier, mais à propos duquel on peut imaginer absolument ce qu'on veut. Et donc il s'amuse à lui faire incarner comme ça un personnage d'enquêteur et de détective.
Et est-ce qu'on sait ce qui relève finalement de la fiction, ce qui relève du réel dans ces romans? Il y a un peu des deux?
Oui, alors c'est absolument complètement de la fiction. Il l'assume totalement. Hein. Il y a un côté un peu parodique. C'est un exercice. Enfin, lui pousse l'exercice un peu jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, il faut dire aussi que Angela Merkel est également l'objet de pièces de théâtre. Il y a un certain nombre de ces déclarations qui sont reprises et qui sont utilisées dans des spectacles, dont un est d'ailleurs visible à Paris en ce moment.
En Allemagne, Miss Merkel est devenue une figure de la vie culturelle. C'est cet article donc à retrouver ce mardi dans La Croix et sur votre site internet. Merci Alain Guilmol.
Merci à vous.
Alain Guilmol, journaliste à La Croix, répondait aux questions de Romain Ouzoui. Juste avant de retrouver Afrique Soir, le reportage international nous emmène en Irak. Une loi veut modifier les règles du mariage, du divorce ou encore de la garde des enfants. Les opposants dénoncent une réforme qui entamera les droits des femmes et des enfants dans le pays. Reportage Marie-Charlotte Roupy.
Les manifestants, majoritairement des femmes, sont quelques dizaines rassemblées dans une rue passante de Bagdad. Elles rejettent la réforme de la loi qui régit les affaires familiales en Irak.
En amendant cette loi, ils ont l'intention de remplacer les tribunaux civils irakiens par des tribunaux chiites et sunnites.
Sohaila El Hassem, activiste et membre de l'Alliance 188, du nom de la loi dite des statuts personnels.
Depuis 1959, nous allons devant un seul tribunal et les citoyens irakiens, quand ils signent leur contrat de mariage devant un juge, se voient demander à quelle religion rattacher ce mariage et le juge l'enregistre. Mais maintenant, ils veulent séparer ça entre les tribunaux chiites et sunnites.
Avec son collectif, elle dénonce un retour en arrière, une influence religieuse sur les affaires civiles qui rendrait plus facile le mariage des mineurs et accorderait la garde des enfants au père à partir de 7 ans. Derrière une banderole, une femme s'inquiète des conséquences que cela aura sur sa fille dont elle a la garde depuis son divorce.
J'ai été forcée de me marier quand j'avais 13 ans. Ma fille a maintenant 10 ans. Pourquoi devrait-elle être à la garde de la femme de son père? Ça fait 10 ans que je prends soin d'elle et ils veulent me prendre ma fille sans lui demander son avis. Nous rejetons cet amendement parce qu'il ôte leurs droits aux femmes et aux enfants.
Elle est interrompue par un homme divorcé qui soutient la réforme.
Je gagne 10 000 dinars par jour. J'ai 4 enfants et je dois verser 450 000 dinars par mois. La mère de mes enfants ne me laisse ni les voir, ni leur rendre visite. Jamais.
Les juges sont justes. Vous pouvez aller au tribunal et demander à les voir.
Lui oppose une manifestante. Le ton monte jusqu'à ce que l'homme reçoive une gifle et soit escorté hors de la foule. Cette scène surprenante à Bagdad illustre les tensions engendrées par cette réforme. Pourtant, les règles qui régiront la vie des Irakiens ne sont pas claires. Les autorités religieuses auront 6 mois pour écrire leur code juridique une fois la réforme votée. Pour Salem El Moussaoui, ancien juge spécialiste du droit constitutionnel, difficile de savoir à quoi s'attendre.
Le problème du mariage des mineurs, c'est qu'il est source de désaccord entre les courants religieux. Le groupe sunnite malikite dit 12 ans minimum, l'école hanafite sunnite dit 9 ans et les chiites jafari disent 7. La crainte, c'est que les citoyens perdent confiance en notre système judiciaire irakien. Le résultat, c'est que nous serons soumis aux opinions et aux jugements personnels de religieux.
Quel contrôle conserverait l'État sur ces lois ? En cas de changement de responsable religieux dans le pays, les codes pourraient-ils être changés? De nombreuses questions restent en suspens, y compris de savoir si la réforme sera cette fois adoptée au Parlement. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad RFI.
À l'écoute des RFI en direct de Paris, je vous rappelle cette information de la soirée, l'imminence d'un accord de cessez-le-feu au Liban entre le Hezbollah et Israël, confirmé par plusieurs chancelleries ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans quelques secondes, Sylvie Berruet derrière ce micro.
Appelez-nous, exprimez-vous. Nathalie Amar.
Comment mettre fin au fléau de la pollution plastique? Un traité mondial est à l'étude cette semaine en Corée du Sud. Alors qu'en Afrique, certains pays ont déjà interdit l'utilisation des sachets à usage unique, les lois ne sont pas toujours appliquées. Et vous, pouvez-vous vous passer du plastique?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.